En introduction donc de cette journée, je vous invite à écouter et à entrer dans la méditation du psaume 19 que je vais lire à présent. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire, elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité, toutes elles sont justes. Plus désirable que l'or et quantité d'or, que l'or et quantité d'or fin, plus savoureuse que le miel nouveau. Ton serviteur lui-même en est éclairé, il trouve grand profit à les garder. Qui s'aperçoit des erreurs? Acquitte-moi des fautes cachées. Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il n'ait pas d'emprise sur moi, alors je serai parfait et innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés en ta présence, Seigneur, mon roc, mon défenseur. En quelques versets, David, l'auteur de ce psaume, nous conduit du Dieu créateur, créateur de l'univers, au Dieu personnel, qui instaure une relation de proximité, d'intimité avec sa créature jusqu'à recevoir d'elle, à la fin de ce psaume, le murmure de son cœur. Et ce Dieu tout-puissant et personnel à la fois se révèle de deux manières dans ce psaume. D'abord, de manière générale, dans sa création, ce sont les versets 2 à 7, la section peut-être la plus longue du psaume, puis de manière plus spéciale par sa parole dans les versets 12, dans les versets 8 à 11. Et cette révélation appelle de la part du psalmiste une réponse qui s'exprime dans la dernière partie du psaume, versets 12 à 15. Car en choisissant de se révéler, Dieu cherche à initier une relation d'alliance avec sa créature. Autrement dit, sa révélation, qu'elle soit générale ou en particulier spéciale, n'est pas neutre. Elle n'est pas sans conséquences pour nous. Elle nous engage d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce parce qu'elle révèle qui nous sommes. Elle éclaire notre être intérieur, comme il est dit à la fin de ce psaume, d'une lumière libératrice, car c'est bien par cette expression du Dieu rédempteur que se termine le psaume 19. Alors, suivons le psalmiste dans le parcours sur ce chemin qu'il nous trace, à commencer par cette première dimension de la révélation générale au travers de sa création. Et d'abord, il y a ce paradoxe saisissant d'une proclamation silencieuse. Je ne pense pas que ça tout à fait. Bon, proclamation silencieuse de la parole de Dieu. La parole publie, proclame, elle informe, transmet la connaissance. Elle fait même entendre sa voix, verset 5, mais sans parole, sans discours, de manière silencieuse, comme il est dit au verset 4. Il suffit de la contempler pour admirer la gloire de Dieu. Et c'est bien là son témoignage. Verset 2, tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. En présentant la création comme l'œuvre de ses mains, le psalmiste signifie d'emblée que Dieu est le créateur, l'auteur de la création, celui qui l'a façonnée de ses mains. La création tout entière en témoigne. Elle parle d'elle-même et son témoignage est suffisamment éloquent. Sa simple existence est proclamation. Tout autour de nous, dans la création, nous parle de Dieu et nous invite à nous ouvrir à lui. Au début de son épître aux Romains, Paul reprend et développe cette vérité quand il nous dit, je ne pense pas que ce soit tout à fait le... Je vais peut-être laisser là. Oui, voilà, j'ai dû laisser passer un... Oui, tout à fait. Quand il nous dit au chapitre 1er, verset 20, que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Et quand on connaît un peu le contexte de ce passage, on sait que par la suite, dans le verset qui suit, l'apôtre Paul poursuit en disant qu'ils sont inexcusables ceux qui refusent d'honorer Dieu et de le respecter. Ainsi donc, la révélation générale de Dieu à travers l'œuvre de ses mains est suffisante pour ôter toute excuse à celui qui revendiquerait le droit à l'ignorance pour justifier son refus de Dieu. D'ailleurs, le psalmiste se plaît aussi dans les premiers versets de ce psaume à souligner la transmission de la connaissance, de l'instruction dans la révélation générale. Verset 3, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le verbe pour instruire suggère en hébreu le bouillonnement, le jaillissement irrépressible d'une source. De là peut-être, comme le note Derek Kinder dans son commentaire, la variété intarissable de la façon dont les journées reflètent l'intelligence du Créateur. J'aimerais donc, au travers de cette première section sur la révélation générale, m'arrêter sur trois dimensions de cette révélation. La première étant ce paradoxe de la proclamation silencieuse. Et on en vient donc ici à cet autre aspect de la révélation générale, cette intelligence, cette harmonie qui se dégage de la création. Ainsi, au verset 5, l'allusion au langage, leur harmonie éclate sur toute la terre, leur langage jusqu'au bout du monde. Cette allusion fait référence au langage à un ensemble coordonné avec ses règles et sa syntaxe qui nous renvoie à une vision ordonnée de la création avec ses lois. Quant à la succession du jour et de la nuit au verset 3, elle manifeste une stabilité qui célèbre silencieusement la gloire de Dieu. Cette stabilité s'exprime non seulement par l'absence de variation, mais aussi par l'absence de confusion entre le jour et la nuit. Le jour l'annonce au jour et la nuit l'explique à la nuit. La distinction entre le jour, la lumière du jour et l'obscurité de la nuit reprend le récit de la Genèse où Dieu crée en séparant et donc en créant de l'ordre. Les versets 5 et 6 soulignent la dimension universelle et incontournable de la révélation générale. Universelle car elle atteint les confins de la terre, tout l'univers est concerné, incontournable comme l'ardeur des rayons du soleil auxquels rien n'échappe. Il est intéressant aussi de noter que David utilise au début du verset 5 un mot qu'on peut traduire soit par voix, soit par mesure, qui est d'ailleurs l'usage le plus attesté dans la Bible. Les versions d'ailleurs hésitent sur la traduction à adopter et la traduction œcuménique de la Bible opte pour le terme harmonie. D'ailleurs, vous avez ici le verset sous la version de la Tob. On retrouve ce terme dans Job 38-33 quand le Seigneur interroge son serviteur par cette question. « Connais-tu les lois du ciel ? Est-ce toi qui règles son pouvoir ?» Et on sait que dans ce chapitre, Dieu se présente à Job comme le maître de l'univers, comme celui qui préside à son bon fonctionnement. David choisit donc à dessein, dans ce psaume, un vocabulaire qui confère à la révélation générale une cohérence, une harmonie, et dont le but est de publier la gloire de Dieu, de témoigner en silence mais avec éclat de l'intention du Créateur de donner sens à sa création. Et cette intention se manifeste plus précisément à partir du verset 5, au moment où apparaît le soleil qui est comparé à un époux. Et c'est le troisième élément qui attirera notre attention dans cette première section du psaume, la dimension de célébration festive. Le panorama général du firmament, au début du psaume, cède ici la place à un acteur singulier, le soleil. Un acteur certes, mais qui joue son rôle sous la direction de Dieu. Car c'est bien Dieu qui est l'auteur de l'action. Jusque-là, la création rendait témoignage à la gloire de Dieu. Mais à présent, Dieu s'implique personnellement, en dressant lui-même une tente pour le soleil, en lui assignant une place dans le ciel, en présidant à sa destinée et par voie de conséquence à celle de la création qui nous entoure. Nous sommes bien loin du Dieu soleil adoré par les nations païennes. Ici, au contraire, l'astre du jour dépend entièrement de Dieu qui en établit les règles et en fixe le parcours. La métaphore nuptiale au verset 6, où le soleil est comparé à un époux qui sort de sa chambre, exprime la dimension de célébration festive de la révélation générale. Ainsi, l'ordre, l'harmonie, l'équilibre qui imprègnent la création ne sont pas une fin en soi. La joie, la vie, la présence rassurante et réconfortante telle celle du soleil qui réchauffe sont au cœur de l'intention divine. La joie mentionnée dans ce verset 6 se manifeste dans un projet vital pour le reste de la création. Celui du soleil qui sort se met en route et s'élance dans une course qui réchauffera de ses rayons ardents la création. Or, on sait combien cette présence est indispensable à la vie sur terre. Il est difficile, me semble-t-il, d'ignorer le contraste saisissant entre cette intention divine entièrement tournée vers l'harmonie, la célébration, et la réalité d'un monde marqué par le péché, où domine un sentiment d'abandon, de peur, face à la mort. Car la création tout entière est affectée par les conséquences de la chute. Comme le dit Paul toujours dans son épître aux Romains, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Forcé de constater en effet que le péché, mentionné à partir du verset 13 au psaume 19, a rompu cette harmonie, nous a soustrait à la présence du Dieu saint. Mais justement, le psalmiste ne s'arrête pas en si bon chemin. Il nous invite, après nous avoir parlé de la révélation générale, à considérer la révélation spéciale de Dieu au travers de sa parole. À partir du verset 8, il nous invite à considérer cette révélation écrite dans la loi qui complète celle de la création, parce qu'elle va nous parler cette fois du Dieu personnel. Dieu qui dresse une tente pour le soleil et en fixe le parcours se manifeste à présent dans sa parole, qui nous éclaire telle une lampe sur une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, pour faire référence au psaume 119, verset 105. Les versets 8 à 11 sont une méditation consacrée à la loi de Dieu, qu'on peut d'ailleurs aisément rapprocher à celle beaucoup plus longue du psaume 119. Et là aussi, je relèverai trois caractéristiques de cette révélation spéciale de Dieu qui se présente d'abord ici comme un document d'alliance. Avec cette seconde section du psaume, nous entrons dans une dimension beaucoup plus personnelle de la révélation de Dieu. Alors que jusque-là, David n'avait évoqué le nom de Dieu qu'une seule fois au verset 2 et de manière assez générale, en utilisant le nom général de Dieu, elle, à partir du verset 8, il utilise le nom du Dieu de l'Alliance, Adonai, Seigneur, cette fois. Ce titre apparaît dans les versets 8 à 15. C'est le nom avec lequel Dieu avait choisi de se révéler à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. C'est donc le nom du Dieu de l'Alliance, le nom du Dieu qui vient faire alliance avec son peuple. Et c'est bien cette dimension d'alliance qui caractérise la révélation de Dieu par sa parole. D'ailleurs, le mot qui ouvre cette section est à ce titre significatif, c'est le mot « Torah » qui désigne le document témoin de l'alliance entre Dieu et les hommes. Ainsi, après avoir décrit le Dieu créateur, David nous parle du Dieu de l'alliance. Autrement dit, Dieu n'a pas créé l'univers pour s'en retirer. Il n'est pas le Dieu de Voltaire qui n'interviendrait plus ou peu dans sa création. Non, bien au contraire, c'est un Dieu qui continue de se faire connaître et qui cherche sans cesse à établir une relation avec sa créature. Le Dieu créateur du début du psaume s'implique à présent personnellement dans sa création. Et comment s'implique-t-il ? Par sa parole, en parlant à son peuple par des lois, des témoignages, des décrets, des commandements, tous ces termes sont dans le psaume. Ce vocabulaire riche et précis exprime, me semble-t-il, un fonctionnement cohérent qui fait écho à celui de la création. Si la création est ordonnée, si elle repose sur un équilibre subtil, la relation au Dieu créateur est elle aussi structurée. Elle est structurée par une relation d'alliance qui garantit l'harmonie pour celui qui la respecte en craignant Dieu, comme il nous est dit au verset 10. Ainsi, Dieu qui crée l'univers par sa parole créatrice continue de parler à son peuple, cette fois par sa parole inspirée. Et cette parole est féconde, car elle suscite dans le cœur de celui qui la reçoit la foi. Comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, et en citant d'ailleurs le verset 5 de ce psaume 19, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, et là il y a la citation du psaume, « La voix a retenti par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. » On pourrait s'attendre à ce que cette révélation parfaite et sainte de Dieu, par sa parole, contrarie notre humanité imparfaite et pécheresse. On pourrait s'attendre à ce que dans ce psaume, cette révélation spéciale restreigne notre liberté, qu'elle porte un jugement sur notre comportement ou tout simplement qu'elle nous fasse des reproches bien mérités. Or, force est de constater qu'au psaume 19, le rôle de la parole de Dieu n'est pas tant de dénoncer que de restaurer, réjouir, éclairer. Et je relirai les versets 8 et 9. « La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. » Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. Voilà ce que produit la parole de Dieu dans le cœur de celui qui la reçoit avec crainte. Et il y a à ce sujet une continuité entre les deux manières dont Dieu se révèle dans sa création et dans sa parole. Comme pour la révélation générale, on y trouve dans la révélation spéciale, au travers de sa parole, la vie. Elle restaure la vie. L'instruction, elle donne la sagesse. La joie, elle réjouit le cœur. L'ordre et la lumière, elle donne le discernement ou elle rend clairvoyant, suivant les versions. Mais ici, tout se passe dans le cœur, comme il est dit au verset 9, dans le tréfonds de notre être intérieur. C'est là, au plus profond de nous-mêmes, que la parole fait son œuvre, exerce son influence, féconde notre âme. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle les juge des sentiments et des pensées du cœur. Seule la révélation spéciale et inspirée de Dieu par sa parole peut accomplir cette œuvre en nous. Car ne nous y trompons pas, si cette parole ici présentée n'est pas là pour nous faire des reproches, il n'en demeure pas moins que l'objectif poursuivi est bien de changer, de sortir de nos compromissions pour emprunter un autre chemin caractérisé cette fois par la perfection. Ta loi est sainte, par la confiance. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Par la pureté, le respect de l'Éternel est pur. Par la vérité, les décrets de l'Éternel sont vrais. Finalement, ce chemin nouveau que le psalmiste trace ici, c'est le chemin de la crainte de l'Éternel, comme il est dit au verset 10. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est déjà laisser la parole nous éclairer, restaurer en nous la vie, nous transformer de l'intérieur afin de respecter Dieu et de l'aimer en obéissant à sa parole. La crainte de Dieu ne signifie pas l'absence du péché, mais plutôt l'abandon du péché devant Dieu. C'est la réponse du psalmiste à la révélation de Dieu dans les derniers versets de ce psaume où David exprime sa confiance à Dieu. La révélation de Dieu dans sa création puis dans sa loi instruit le psalmiste qui se sait désormais averti. Verset 12. En hébreu, le verbe pour avertir signifie aussi briller, éclairer. Cette lumière qui, sous la forme du soleil, éclaire toute la création sans que rien ni personne ne puisse y échapper, verset 7, ou qui, sous la forme du commandement du Seigneur, fait briller les yeux en donnant le discernement, illumine à présent le psalmiste qui en tire grand profit. Alors on a comparé la révélation spéciale de Dieu au travers de sa parole à une paire de lunettes qui permet à celui qui la reçoit de pouvoir bien voir et comprendre la création, autrement dit la révélation générale qui nous entoure. Pourquoi ? Eh bien parce que la révélation spéciale de Dieu dans sa parole nous permet d'avoir une relation personnelle avec notre Créateur, autrement dit de le connaître comme un Père. Si la révélation générale nous rend inexcusable et donc nous condamne, la révélation spéciale de Dieu au travers de sa parole nous réconcilie avec Dieu et donc nous libère. Chez le psalmiste, cela passe par le réveil de sa conscience. À la fin du psaume, il implore le pardon divin, même pour ses fautes cachées. Il demande à être gardé de l'orgueil, verset 14. Et enfin, il offre au Seigneur sa prière comme un sacrifice de bonne odeur. Il est intéressant de noter, à la suite toujours de Derek Kinder dans son commentaire, que ce psaume se termine non pas par la nécessité d'éviter le péché, mais sur la nécessité de rendre à Dieu la réponse appropriée à ses paroles comme un sacrifice. Le Tout-Puissant, le Créateur, n'est pas l'accusateur qui chercherait à nous éliminer, au contraire. Il se présente comme un refuge libérateur pour celui qui cherche à vivre dans la crainte de son nom. C'est Dieu qui le défend, qui le protège, qui le libère du péché. Entrer dans le projet de Dieu est donc source de paix, d'émerveillement et de bonheur. Ce psaume nous invite donc à considérer la révélation de Dieu dans sa création et dans sa parole de manière simultanée, sans les séparer, car c'est bien par la parole inspirée que nous pouvons accéder à l'intention première du Créateur, qui est d'établir ou de rétablir une relation avec la créature déchue que nous sommes. Et pour cela, le psalmiste nous exhorte à cultiver la crainte de Dieu dans notre vie, afin de rester en éveil. Ainsi, nous pourrons vivre continuellement de la grâce de Dieu, dont la gloire resplendit déjà dans la création.